9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, on va démarrer la semaine en parlant de vos dents. Bonjour et bienvenue, le docteur Alain Amzalag est avec nous, comment allez-vous?
Bien, très bien.
Chirurgien dentiste, vous publiez avec votre fils Jérémy, et si votre dentiste pouvait vous sauver la vie, chez Hugo New Life, un titre qui vous a été inspiré par votre papa qui était lui-même dentiste.
Et qui m'a transmis cette passion que j'ai moi-même transmis à mon fils.
Voilà. Et vous auriez pu appeler votre livre Et si une brosse à dents pouvait vous sauver la vie.
Absolument,
également.
C'est vrai en plus.
Bon, alors ça y est, avec les vétérinaires, vous pouvez vacciner à partir d'aujourd'hui. Est-ce que vous sentez une demande de vos patients dans les cabinets qui vont chez le dentiste pour se faire vacciner?
Écoutez, d'abord, ils sont les bienvenus. Il faudra avoir des vaccins déjà pour les vacciner. Ensuite, bon, c'est vraiment... je pense que... bon, on est prêt. On est prêt. Faire une injection, faire un vaccin, pour nous, c'est rien du tout. Mais faudrait-il avoir ces vaccins?
D'accord. Mais est-ce que vous avez un patient qui vous l'a déjà demandé?
Non. Non.
Et est-ce que vous pensez que maintenant vous pouvez le faire, on va vous le demander?
Écoutez, si on me demande, je le fais, mais je pense qu'il y a eu tellement d'annonces qui ont décrédibilisé l'action des autorités sanitaires qu'on ne croit plus à rien. Donc c'est, bref.
Bien.
Bref.
On en parlait tout à l'heure pour taquiner Mona hors antenne. J'ai appris dans votre livre qu'il existe une cellulite des dents. Une cellulite qu'on appelle la cellulite cervico-faciale. De quoi s'agit-il?
Alors, la cellulite, c'est une infection dentaire, en général, qui est produite par des bactéries extrêmement virulentes, et ça peut être une dent de sagesse, c'est souvent une cellulite de la dent de sagesse, ou une infection dentaire qui n'a pas été traitée, qui s'est compliquée, et qui se termine par un énorme abcès, et la joue qui gonfle. Alors, c'est très intéressant ce que vous me dites là, parce que quand on a mal aux dents, on a tendance à prendre de l'ibuprofène. L'ibuprofène, donc, c'est l'Advil ou le Nurofen, et il ne faut surtout pas, c'est extrêmement dangereux. Alors, dans le cas d'une cellulite, c'est une infection compliquée par cet énorme gonflement de la joue qui fait qu'on a vraiment l'impression d'être un œuf de Pâques. Eh bien, l'anti-inflammatoire qu'est le Nurofen va supprimer complètement la réaction immunitaire de défense, et on peut, en bloquant cette réaction de défense, on peut avoir une septicémie mortelle. Donc, lorsqu'on a soit une cellulite, on consulte au plus vite, mais surtout ne pas prendre d'ibuprofène, prendre du doliprane, mais pas d'ibuprofène, car ça peut être fatal.
Alors, ce que vous dites, c'est pour la cellulite, mais par exemple, si on a un abcès ou un mal aux dents...
Alors, on supprime l'ibuprofène, tout anti-inflammatoire. Vous savez que lorsqu'on a une infection, l'organisme se défend. Et l'anti-inflammatoire empêche l'organisme de se défendre. Donc, la prise d'anti-inflammatoire peut induire une propagation, au contraire, bactérienne, une septicémie qui peut être, dans certains cas, fatale. Voilà. Donc, pas d'anti-inflammatoire lorsqu'on a une infection.
Alors, cette cellulite cervico-faciale, quel est le lien avec, par exemple, un abcès? On peut les confondre ou pas, ou ça n'a rien à voir?
C'est la complication ultime d'une infection dentaire.
D'accord.
Alors, l'infection dentaire peut aussi évoluer à bas bruit. Donc c'est pour ça qu'on a en fait, comme on ne peut pas, une infection évolue souvent à bas bruit. Comme elle évolue à bas bruit, on ne doit pas prendre d'anti-inflammatoire parce qu'on ne sait pas comment les choses peuvent se compliquer. Donc dans le cas de douleurs dentaires importantes dont l'origine n'est pas totalement connue encore parce qu'on n'a pas vu le dentiste, surtout ne pas prendre d'ibuprofène. Si j'insiste là-dessus, c'est qu'on associe dans les pubs de télévision ou parfois même de radio, l'ibuprofène à la douleur dentaire. Comment ne plus avoir mal aux dents en prenant de l'ibuprofène? C'est en vente libre. Et comme c'est en vente libre, c'est un gros danger. Donc, pas d'ibuprofène lorsqu'on a une suspicion d'infection dentaire. Paracétamol.
Bien. C'est clair. Un an après, où les Français en sont-ils avec leur santé bucco-dentaire? Déjà, j'ai une question. Est-ce que le bain de bouche a un impact sur la charge virale du Covid-19 ou pas?
Il peut la diminuer. Nous, dentistes, avant de commencer à soigner le patient, nous donnons un petit bain de bouche avec soit de l'extril, des ludrils, mélangé avec de l'oxygéné, parce que ça diminue la charge virale.
Donc c'est vrai ce qui est écrit.
C'est vrai.
Alors j'ai vu que vous conseillez un bain de bouche qui est la Listerine 0%. Est-ce que ça a le même effet sur la charge virale ou pas?
Alors
parce qu'il y a pas d'alcool dans la Listerine 0.
La Listerine. Alors si on prend un bain de bouche classique qui contient l'exétidine comme l'extril, Si on l'utilise trop souvent et trop longtemps, ça va complètement bouleverser la flore buccale et ça pourra avoir des effets extrêmement négatifs sur les muqueuses. La lycérine 0% a ce pouvoir antibactérien et peut être utilisée sans danger, j'ai bien 0%, hein, peut être utilisée matin, midi et soir. Ça permet de rafraîchir la laine et de diminuer aussi la charge virale.
En continu, on peut le faire
matin, midi et soir, contrairement aux bains de bouche qui doivent être utilisés en traitement d'attaque, c'est-à-dire juste quelques jours après une chirurgie, après une inflammation, après une infection.
Alors, docteur Hamzala, comment le Covid-19 a-t-il impacté la façon dont vous travaillez pratiquement? Quel impact ça a eu sur le nombre de patients que vous recevez par jour au cabinet?
Alors, déjà, on peut dire que depuis le premier confinement, la santé bucco-dentaire, non seulement des Français, mais la santé bucco-dentaire dans le monde, s'est fortement, fortement dégradée. Comme d'autres, dans d'autres, on constate la même chose dans d'autres spécialités médicales. La Fédération dentaire internationale annonce une véritable catastrophe sanitaire et eux, ils parlent même de syndrome bucco-dentaire post-Covid. Alors, qu'est-ce qui s'est produit? Il s'est produit, on a tous remarqué, on est vraiment surpris par cette recrudescence de caries, recrudescence d'infections dentaires, recrudescence de parodontite. Parodontite, c'est cette maladie des gencives qui précède le déchaussement, la perte des dents. Et on a eu soit une recrudescence, soit une aggravation des cas de bruxisme. Alors,
La maladie du troisième millénaire.
Donc c'est ce serrement ou grincement des dents qui peut avoir des conséquences non seulement sur les dents et même indirectement sur les gencives, mais on a remarqué par exemple qu'à l'issue du confinement, pendant le confinement et encore aujourd'hui, des personnes qui ne serraient pas ou grinçaient pas des dents grinçaient les dents aujourd'hui, ou ceux qui grinçaient des dents ont grincé ou serré encore plus fort. Alors, vous allez me dire les conséquences. Les conséquences, elles sont d'abord articulaires, c'est-à-dire qu'on fatigue nos articulations, mais plus grave, ce serrement ou grincement des dents peut aboutir à des fractures dentaires, des fêlures qui peuvent même conduire parfois à l'extraction de dents. Donc cette force musculaire qu'on exerce lors du serrement des dents, c'est une forme de cristallisation du stress et on peut dire aujourd'hui que la bouche est un véritable réservoir et déversoir du stress.
Ceci dit, le bruxisme, c'est peut-être les autres qui s'en rendent plus compte vous, puisque souvent les gens qui on dit qui bruxent.
Alors il y a deux choses. Il y a le serrement des dents qui ne s'entend pas et le grincement des dents qui s'entend. C'est-à-dire la personne qui dort à côté de vous ne pourra pas dormir mais le serrement des dents est encore plus pernicieux parce que les dégâts qui sont induits par le serrement des dents sont aussi importants parfois que ceux du bruxisme. Enfin, le bruxisme, on parle aussi du bruxisme dans le serrement des dents, mais que ceux qui grincent des dents et qui font énormément de bruit.
Alors, quelles sont les causes du bruxisme?
Les causes, le stress, l'angoisse. Il y a une charge anxiogène en ce moment qui est énorme. Il ne faut pas oublier que depuis le premier confinement, on vit une période extrêmement angoissante. Là, je pense qu'on est tous. Je vais vous donner un exemple. J'ai, par exemple, ça fait 40 ans que je n'ai pas eu de caries. Et cette crise sanitaire et ce confinement et cette situation désastreuse m'a angoissé comme tout le monde. Eh bien, ce qui m'est arrivé est arrivé à tout le monde. C'est-à-dire que ce stress. Alors, on a parlé du bruxisme.
C'est-à-dire que vous avez eu une carie.
J'ai eu plusieurs caries et je n'ai jamais eu de caries.
Cette année. Ouais, mais c'est pas des caries de stress.
Non, c'est autre chose. Alors, lorsqu'on est stressé, et on l'est actuellement, on l'a été depuis le mois de mars dernier, il y a une augmentation de l'acidité buccale. Cette acidité buccale conjuguée au sucre de l'alimentation, et il y a eu beaucoup de grignotage ou de dérives alimentaires, font que les bactéries, en présence de cette acidité liée au stress, permettent vont véritablement attaquer, forer la dent et aller se nicher dans les zones les plus, dans les coins entre les dents, là où les caries apparaissent d'une manière vraiment violente.
C'est-à-dire que le stress a un impact sur l'acidité de la bouche.
Ça augmente l'acidité buccale, cette acidité buccale conjuguée au sucre de l'alimentation. Ouais. Et on a un peu dérivé. On a tous fait eu des moments de grignotage. A été fatal pour les dents. Donc on a eu une recrudescence de caries extrêmement importante. Pendant ce confinement aussi, on a un peu souvent délaissé notre hygiène bucco-dentaire. Donc ça a évidemment majoré ce risque de caries dont je vous parlais, mais également le risque de parodontite et de déchaussement, d'attaque des gencives et de l'os maxillaire. Évidemment, il y a eu aussi le bruxisme. Donc tout ça fait qu'on vit, on peut parler de syndrome buccodentaire post-Covid. Alors, il y a eu, qu'est-ce qui a aggravé aussi cette situation? C'est qu'on a eu en fait d'abord une interruption des soins, ensuite un report des soins, ensuite une procrastination des soins. On a perdu à peu près un an, et il faut savoir une chose, c'est que les visites préventives chez le dentiste sont fondamentales. Elles conditionnent l'évolution de nos caries, nos infections, l'évolution de notre santé bucco-dentaire. La principale conséquence de ces problèmes, de cette catastrophe sanitaire bucco-dentaire, c'est que, comme j'expliquais dans mon livre, il y a un lien entre des infections dentaires mal traitées ou non traitées et des infections à distance, que ce soit du cœur, du corps en général. Et ça, donc,
ça peut être les articulations, par exemple, ça peut être les tendinites, enfin,
plein de choses. Beaucoup non, de mais choses. Ou des infections plus graves au niveau du cœur, puisqu'on a mis en lien des infections bucco-dentaires avec des AVC ou des maladies cardiovasculaires. Ce qui veut dire que si des personnes ont des comorbidités, toutes ces infections dentaires ou cette aggravation de notre état bucco-dentaire peut nous mettre encore plus en difficulté face au Covid. Puisqu'on sait que les personnes qui ont des comorbidités sont, on va dire, en plus grande difficulté face au Covid. Donc ces infections dentaires non traitées ou mal traitées peuvent aggraver notre état de santé et notre résistance par rapport au Covid. Ça, c'est très important. Alors, c'est très simple. Ça paraît un peu angoissant, mais c'est tellement simple de retourner voir son dentiste, de reprendre le cours des soins. Si tout s'arrangeait comme les dents ou les problèmes bucco-dentaires, ça serait merveilleux. Et tout est réversible et tout est réparable. Allez revoir votre dentiste et reprenez un rythme de soins régulier.
Bien. Un protocole de décontamination très strict a été mis en place chez les dentistes. Est-ce que vous procédez à un test de dépistage rapide avant...
Non.
Mais il y en a qui le font ou pas, ça?
Pas vraiment.
Ouais.
Mais les précautions que l'on prend pour le patient et pour nous sont extrêmement importantes. On a des protocoles vous savez que les dentistes déjà étaient en pointe sur la prévention des risques de contamination. Donc on a tout simplement renforcé un petit peu nos mesures, mais on fait figure parmi les experts dans la prévention des risques de contamination.
C'est pour savoir si vous pouviez consulter le même nombre de patients qu'avant, ou finalement le temps de...
Lorsque je parle du renforcement de ces mesures, bien évidemment, on laisse la pièce aérer au moins 10 minutes entre chaque patient. On prend bien évidemment beaucoup moins de patients. 30% de patients en moins.
Oui, la question qui suivait, c'est de savoir est-ce que ça va avoir un impact et une incidence sur le prix des soins dentaires.
Non.
Parce que si vous voyez moins de gens, finalement...
Non. On fait juste une petite parenthèse sur les soins dentaires. Depuis le début de l'année, donc, on a mis en place le reste à charge zéro. Alors, moi, je préfère dire vraiment aux Français, attention, continuez à faire extrêmement attention. Ne comptez pas sur le reste à charge zéro pour vous faire soigner gratuitement. Il n'existe pas de pays au monde où les prothèses sont gratuites. Et là, le reste à charge zéro est un véritable leurre. Aucun dentiste français ne peut soigner correctement ses patients en comptant sur le reste à charge de zéro. Le reste à charge zéro, c'est comme si vous veniez me voir, d'accord, et que je vous payais pour vous soigner. C'est-à-dire que les honoraires qui sont fixés, plafonnés pour le reste à charge zéro font qu'on rembourse. Nous avons des frais de prothèse et des frais de fonctionnement, et que finalement, ce reste à charge zéro nous oblige pratiquement à dépenser de l'argent pour vous soigner. Ce qui est vraiment une illusion, un leurre. Un leurre qui peut amener une dégradation de l'état bucco-dentaire des Français. Pourquoi? Parce que personne ne peut soigner à ce niveau-là. Il n'existe pas de dentiste au monde qui puisse soigner en dépensant de l'argent pour son patient. C'est pas possible. Et c'est le cas. Ouais. Donc, faites attention. Allez voir votre dentiste qui est vraiment la personne qui fera vraiment, vraiment attention à vous. Et surtout, prenez une bonne mutuelle. C'est la meilleure garantie pour vous faire soigner dans de bonnes conditions.
Et même la bonne mutuelle.
La bonne mutuelle permet d'avoir. Non, il y a des mutuelles qui permettent de rembourser. C'est à partir du moment où le praticien pratique des prix avec tact et mesure, vous pouvez. Ouais. Il faut aussi comprendre une chose, c'est que même si ces soins nous coûtaient un petit peu, on s'est aperçu que quand ça nous coûtait un petit peu, on faisait beaucoup plus attention. Aux États-Unis, par exemple, les soins sont extrêmement coûteux, mais je peux vous dire que ils gèrent leur capital dentaire comme quelque chose d'un bien extrêmement, extrêmement précieux. Chez nous, comme les soins dentaires préventifs et conservateurs sont entièrement, entièrement remboursés, on a toujours l'impression qu'on peut récupérer le circuit des soins. Pas du tout. On a le meilleur système de soins au monde sur les soins conservateurs, les soins préventifs. Profitez-en. N'attendez pas d'avoir des prothèses ou des couronnes ou des implants.
Alors le docteur Alain Hamzalag est notre invité jusqu'à 10h. On va parler dans un instant de l'hygiène bucco-dentaire du mois de Ramadan. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez le faire au standard 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, on parle des dents pour démarrer la semaine avec le docteur Alain Hamzalag qui est chirurgien dentiste et qui publie « Et si votre dentiste pouvait vous sauver la vie » chez Hugo New Life. On va vous expliquer dans votre livre qu'il y a des patients à risque qui doivent consulter plus que les autres, notamment les diabétiques. Pourquoi ?
Parce qu'en fait, c'est le diabète peut être déséquilibré par une infection dentaire. Et le diabète, on va dire, affecte également la santé bucco-dentaire. Les diabétiques, déjà, ont des gencives fragiles, ont un risque de carie plus important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous savez, quand on a mal, quand on a une petite carie débutante, on a mal au froid, on a des petits signes douloureux. Les diabétiques sont privés, donc il y a des, comme les sont privés de ces sens, ils ont moins de sensibilité, moins de douleur aux dents que les autres. Donc leur situation, leur santé bucco-dentaire peut se dégrader sans qu'ils se rendent compte vraiment. Et dans l'autre sens, une infection dentaire, une infection des gencives, une carie pas traitée va déséquilibrer le diabète. Donc il est extrêmement important de consulter régulièrement pour un diabétique, de faire des détartrages régulièrement, de faire des dépistages de caries, parce que le diabète peut être aggravé ou déséquilibré par une infection dentaire.
Oui,
et à l'inverse, le diabète affecte la santé bucco-dentaire.
Bon, et c'est un des messages de votre livre, on ne peut pas être en bonne santé si on n'est pas en bonne santé bucco-dentaire. Ça, c'est pas possible.
Non. Non. Non.
On va parler de l'hygiène bucco-dentaire du mois de Ramadan. Qu'est-ce qui se passe dans la bouche quand on ne peut ni boire ni manger pendant toute la journée ? Qu'est-ce qui va se passer ?
Alors, on ne va pas parler de la rupture du jeûne, on va parler. Vous voulez qu'on parle de cette phase intermédiaire ?
Moi, je veux qu'on explique aux gens ce qui se passe au niveau de la production de salive, alors, de l'acidité de la bouche quand on ne peut pas ni manger ni boire pour toute la journée.
Lorsqu'on ne mange pas, lorsqu'on jeûne, il y a une sécheresse buccale, donc une absence de salive. Pour ça, il faut vraiment comprendre le rôle de la salive. Le rôle de la salive, donc, d'abord, elle joue un rôle tampon, elle tamponne l'acidité et elle contient des éléments minéraux qui permettent de reminéraliser la dent. Donc, nous sommes privés de la salive et le fait d'avoir moins de salive parallèlement à tout ça augmente la production d'acidité buccale. Et donc, vous voyez bien que là, le risque de carie, il est majeur.
Donc. Parce qu'on reste une période beaucoup plus longue.
Parce qu'il reste beaucoup plus longue sans manger. Donc, il y a une absence de salive qui est vraiment l'élément protecteur contre la carie. Et en plus, on a une augmentation de l'acidité buccale. Cette augmentation de l'acidité buccale favorise donc l'attaque des bactéries au niveau des dents. Voilà. Donc c'est un risque très très important. Alors comment prévenir tout ça ? Alors c'est pas évident de. Cette alimentation du Ramadan est très riche. Elle est très riche en protéines. Elle donne envie. Ces gâteaux sucrés sont véritablement un réservoir donc de sucre
de plaisir.
Énorme, de plaisir énorme. Mais il faut faire. Alors je parle de. À partir du moment où peut-être qu'on pourrait parler du dernier repas du matin.
Le sahour, oui. Voilà. Avant la reprise du jeûne.
Il est très important parce qu'il faut, à ce moment-là, essayer vraiment, vraiment, vraiment de prendre le moins possible d'aliments cariogènes. Il faut prendre.
Alors, des aliments cariogènes.
Qui provoquent des caries. D'accord. Il faudrait idéalement pour ce dernier petit repas ou dernier petit déjeuner, prendre des fruits, des fibres. Et même, on s'est aperçu que le fromage avec des noix ou des noisettes avait non seulement un pouvoir reminéralisant au niveau des dents, mais bloquait la carie. Donc, déjà, ce dernier petit déjeuner doit être vraiment, vraiment, vraiment le moins riche possible en sucre. Et quand je parle de sucre, il faut savoir qu'il y a des sucres cachés partout. Par exemple, des céréales, c'est vraiment un désastre parce que ça contient énormément de sucre et ces sucres sont extrêmement virulents dans l'attaque des dents.
Alors, mais si on s'est brossé les dents après.
Alors, oui, mais il y aura une stagnation des sucres un peu toute la journée. Et donc, vraiment, ce dernier repas est extrêmement important. Alors, il y a aussi une chose importante, c'est le brossage des dents à ce moment-là. Il devra être particulièrement rigoureux et minutieux après ce dernier repas. Ce brossage des dents, idéalement, il faudrait l'assurer au moins pendant 2 minutes et demie. Ensuite, c'est important ce que je vous dis là, parce que c'est vraiment le meilleur moyen de prévenir la carie, passer en plus de la brosse à dents, après la brosse à dents, du fil dentaire ou des brosses à dents dentaires, et pourquoi pas, on parlait de Listerine 0% tout à l'heure, de la Listerine après. Parce que c'est ce dernier repas qui peut conditionner l'apparition des caries. Bon, après...
La Listerine, c'est après le lavage.
La Listerine, c'est après le lavage. Enfin, j'insiste sur le brossage des dents, le passage du fil ou des brosses à dents dentaires après ce dernier petit déjeuner. Et si on peut... choisir de manière plus idéale la composition, je suis pas nutritionniste, mais prendre le moins de sucre possible, de vrai sucre, ce sont des gâteaux sucrés, ce sont des jus de fruits, mais pas des jus de fruits frais, de l'orange, des jus d'orange en bouteille. Tout ça est un véritable réservoir d'acide et c'est très mauvais. Voilà.
C'est le fait de pas boire finalement qui est mauvais pour les dents dans la journée.
Alors, le fait de... Oui.
Comme si elle se déshydratait.
Alors, soit une absence d'hygiène après le dernier repas, parce qu'on peut être fatigué. C'est là où il faut vraiment faire très, très attention. Quel que soit notre état de fatigue, vraiment veiller à ce que le brossage soit. Et aussi, l'absence de salive dans la bouche, la bouche sèche, avec cette acidité buccale, on s'est aperçu que lors de phase de jeûne, il y a des reflux acides. Ces reflux acides ne sont pas tamponnés par la salive. Et donc, il y a... Ce que je vous dis là est aggravé par un brossage un petit peu rapide après le dernier repas. Voilà.
Et pour combattre ce qu'on appelle l'halitose, c'est la mauvaise haleine. Hein,
Alors, pour combattre l'halitose...
Est-ce que vous avez un truc
Alors, il faudrait... Alors, là, il est peut-être... là, je regardais un petit peu ce qui se passait. Alors, au Maroc, il y a la Fondation Hassan II, qui réunit régulièrement des médecins pour parler d'éthique médicale, d'éthique religieuse, et conseillent vraiment d'avoir une hygiène, bien évidemment, cette hygiène que je préconisais tout à l'heure, mais, on va dire, des brossages dans la journée. Alors, brossage, on peut discuter, parce que si jamais vous brossez les dents, vous avalez de l'eau, ou alors le faire sans prendre du dentifrice sans eau, est-ce que c'est pas... Là, ça peut être l'appréciation.
Ah oui, alors tiens, parce que ça, c'est une question qu'on pose jamais. Qu'est-ce qui se passe si on ne se rince pas les dents une fois qu'on a mis du dentifrice?
Écoutez, il ne se passe pas grand-chose parce que il faut normalement se rincer les dents. Bon, mais à la limite, si on se brosse les dents et que pendant cette période du ramadan, c'est pas grave. Parce que ce qui est important, c'est ce brossage mécanique des dents qui vise à vraiment déloger la plaque bactérienne qui est venue stagner à la base des dents. Alors la mauvaise haleine, malheureusement pendant le jeûne, mais je pense qu'avec le masque là, on est un petit peu plus protégé qu'on l'était avant le confinement, avant le, on veut dire que le Covid nous aide un petit peu.
Vous dire que les autres sont plus protégés en fait.
Il y a des remèdes de grand-mère qui préconisent de mâcher du persil, de le broyer et puis de le jeter après sans l'avaler. Bon, ça c'est un petit remède de grand-mère. Le fait de ne pas boire et de ne pas manger induit forcément ces reflux acides et cette mauvaise haleine qui est caractéristique des personnes qui jeûnent, que ce soit dans toutes les religions. Donc lorsqu'on jeûne, bon, on a ce petit problème.
La mauvaise haleine chronique, en dehors du mois de Ramadan, ça peut être signe de quoi pour ce qui concerne la santé de vos dents? Peut être un indicateur de quoi?
Bon, dans 80% des cas, c'est lié à une mauvaise hygiène bucco-dentaire, soit une maladie des gencives. Donc, on doit normalement traiter et régler ce problème par des détartrages, le traitement de nos dents et de nos infections dentaires, de tous les problèmes dentaires ou de caries. À partir du moment où tous ces traitements sont vains et qu'on ne réussit pas, il peut s'agir d'autres problèmes, de reflux gastrique ou d'autres problèmes. Mais en général, ce problème de mauvaise haleine est lié soit à des infections dentaires, des caries, du tartre, enfin des problèmes bucco-dentaires, dans la majorité des cas.
Ce sont les bactéries qui sont à l'origine de l'odeur ou pas ?
Ce sont des bactéries. Non seulement des bactéries, oui, des bactéries, bien sûr. Vous savez que le tartre, en fait, c'est pas du calcaire, c'est du calcaire infecté. Le tartre, en fait, c'est vraiment une substance, calcifiée extrêmement dangereuse parce que ce sont des petits résidus alimentaires qui viennent stagner à la base des dents et qui finissent par se calcifier. Donc, c'est du calcaire infecté. Lorsque ce tartre vient à la base des dents au niveau des gencives, il va faire saigner les gencives. Et donc, il va les rendre inflammatoires. Et en général, ça s'accompagne d'une mauvaise haleine. Mais plus grave que ça, ce tartre, donc ce calcaire infecté, peut s'insinuer sous la gencive. Et là, non seulement il va entretenir encore plus les problèmes de mauvaise haleine, il y aura non seulement la gencive va être infectée, mais l'os qui va être infecté. Et là, ça pourra détruire le soutien des dents. Donc, le tartre, les bactéries qui sont finalement, on va dire, enfermés dans cette matrice calcaire sont à la limite source de mauvaise haleine en prime, majoritairement.
Dans votre livre, tiens, vous donnez, alors ça n'a rien à voir avec ça, mais vous donnez un truc pour se débarrasser des aphtes. Comment est-ce qu'on peut expliquer la récidive des aphtes ?
Alors, elle est essentiellement aussi, alors de la même manière que l'herpès, il y a une tonalité psychologique évidente. On sait que lorsqu'on est stressé, lorsqu'on a les jeunes, lorsqu'ils doivent passer des examens ou des concours, en général, on peut avoir vraiment des crises d'aphtes. Je me souviens, mon fils, en fait, à chaque examen important, avait une crise d'aphtes. Là, il a fini ses études, il est expert comptable. À chaque période des bilans, il m'appelle. Parce qu'il a une poussée d'aphtes, ouais. Ce qui veut dire que c'est vraiment, vraiment lié au stress. Et on n'arrive pas vraiment, vraiment, vraiment à prévenir ces aphtes. On peut essayer de les traiter, on peut essayer de les calmer, mais c'est vraiment essentiellement lié au stress.
Oui, parce que, et parfois des aliments, non? Parce qu'il y a des personnes, par exemple, quand ils mangent un aliment qui vont.
Alors, certains.
De l'ananas,
certains fromages, des noix, des ananas. Donc certains aliments qui peuvent assécher, on va dire décaper. Alors il y a aussi une chose, c'est que un aphte peut aussi apparaître. Imaginez qu'on se brosse les dents un peu brutalement.
Ouais.
Le fait de déraper légèrement avec sa brosse à dents, ça fait une petite brèche qui va être occupée par des bactéries. Ça peut ensuite, on peut avoir aussi une petite dent ébréchée qui va venir se blesser la joue.
Ouais.
Toute, on va dire, petite blessure mécanique au niveau de la bouche peut être une porte d'entrée d'un aphte. Donc, alors, cette prévention du stress, elle peut aussi être assurée, mais bon, en général, les personnes qui aussi vivent des drames personnels, ça peut être un licencié, on va dire toutes les situations de stress peuvent induire des aphtes. Alors, chacun réagit à sa manière, mais beaucoup de personnes produisent des aphtes pendant des phases de stress ou de rupture affective ou bref, dans des moments de fragilité dans la vie.
Il faut les traiter ou finalement il faut les laisser vivre leur vie ?
Alors, lorsqu'il y a un aphte qui est extrêmement douloureux, le dentiste peut vous calmer. Par exemple, un aphte sous la langue, mais c'est horriblement douloureux. On ne peut pas parler, on ne peut pas manger, on a l'impression d'avoir une angine. Là, le dentiste, lui, peut appliquer de l'acide trichloracétique dilué, il va cautériser, il va brûler l'aphte et ça va vous soulager énormément. On peut aussi, s'il est équipé de laser, il peut traiter, ça c'est assez magique, il peut traiter cet aphte avec le laser. Il va traiter donc l'effet mais pas la cause.
Docteur Hamzalag, vous restez avec nous jusqu'à 10h. On va parler dans un instant du vieillissement et des dents. Vous allez voir, on peut rajeunir très rapidement grâce aux dents. Si vous avez des questions à poser, 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Avec le docteur Alain Hamzalag qui est avec nous, chirurgien dentiste et qui publie « Et si votre dentiste pouvait vous sauver la vie ?» chez Hugo New Life. Vous nous expliquez hors antenne d'où vient l'expression « les dents du bonheur ». Alors, les dents du bonheur, pour tout le monde, qu'est-ce que c'est déjà ?
Dents du bonheur, c'est pas une croyance. Bon, Je crois que c'est au 19e siècle, en fait, lorsque les fantassins devaient aller sur les champs de bataille, ils devaient dégoupiller avec leurs dents des grenades. Et en fait, s'ils n'avaient pas de bonnes dents, ou s'ils avaient des dents écartées, ben, ils ne pouvaient pas être candidats pour dégoupiller ces grenades, et donc ils n'allaient pas à la guerre. Et donc, comme c'était un bonheur de ne pas aller à la guerre, eh ben, on appelait ça les dents du bonheur.
C'est un trou entre deux dents, c'est ça? Enfin, un trou,
le DSM, dents du bonheur, c'est un écart entre les deux dents. Entre les dents devant.
J'ai cherché partout une explication que j'arrive pas à trouver, c'est pourquoi on appelle la partie visible de la dent la couronne. Tiens, vous qui êtes, excusez, pourquoi ça s'appelle la couronne?
Parce que c'est la partie précieuse de la dent, celle qui est mise en avant, et donc la couronne, c'est ce qui permet de définir un roi. Donc c'est la partie noble de la dent.
Ouais, validé comme explication.
Là j'ai inventé.
Oui, c'est pour ça que je vous demande si c'est validé comme explication.
Non, on l'a pas trouvé. La couronne et la racine. Oui, j'ai pas encore. Non, là j'étais pas préparé à ça. Donc non, là, c'est pour donner mon interprétation.
Moi j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Donc
d'accord. Je pense que mon intervention est peut-être bonne.
Elle est peut-être pas mal.
Ouais. Pas mal, hein.
Bien, on va parler un petit peu de rajeunissement. En quoi un dentiste peut-il nous rajeunir?
Alors, pour comprendre ça, il faut imaginer que le visage est divisé en trois étages. L'étage, le front, l'étage supérieur, l'étage moyen qui comprend les yeux et le nez, et la bouche. Et dans ce massif facial, dans ce visage, en fait, seule la partie inférieure bouge avec le temps. C'est-à-dire que seuls les dents et les maxillaires s'usent, et en s'usant, l'étage inférieur diminue. Donc le visage s'affaisse à partir des dents et des maxillaires. Or, on peut, comme c'est la seule partie mobile, si une personne perd ses dents ou a des dents abîmées dès l'âge de 20 ou 30 ans, elle peut avoir un vieillissement prématuré du visage lié à l'usure des dents. Là encore, le bruxisme est une source importante de vieillissement du visage. On peut vieillir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bien, finalement, les dents et les maxillaires constituent la charpente du visage. Mmh. Et si cette charpente, on va dire, s'affaisse ou s'abîme, eh bien, le visage s'effondre. Après, vous avez bien évidemment avec l'âge, avec le temps, le vieillissement de la peau, l'aptose, c'est l'affaissement des traits, ça c'est encore autre chose. Mais ce vieillissement du visage, il peut commencer très tôt dans la vie. Il peut commencer à l'âge de 20 ans, 30 ans, non seulement soit par la perte des dents ou des dents cassées, mais également par le bruxisme.
Et le tour de la bouche aussi.
Les lèvres, en fait, sont soutenues par les dents. Et donc, le vieillissement des lèvres peut être accéléré par la perte des dents ou aussi un mauvais traitement des dents. Un dentiste qui reconstruit les dents sans veiller à restituer la position exacte des dents originelles, par exemple quelqu'un qui a des dents en avant, qui veut se reconstruire le sourire, si on lui rentre ses dents, c'est un désastre, parce que là il va y avoir des rides qui vont apparaître, des rides prématurées, les sillons nasogéniens qui vont se marquer, les lèvres qui vont se plisser. Donc on va dire que le principal soutien du visage, ce sont avant tout les dents.
Donc nos dents ont un impact sur l'apparition des rides, c'est ce que vous êtes en train de nous dire.
C'est à la limite le premier signe d'apparition des rides, ce sont des dents qui ont été maltraitées ou pas traitées.
Donc si on laisse un trou par exemple, une dent pas remplacée,
il y aura un affaissement. Si on a même un trou sur le côté, vous allez avoir un creusement de la joue et une accentuation, donc un affaissement du visage également.
Quand les dents jaunissent par exemple, aussi c'est un signe de vieillissement. On appelle ça comment le jaune des dents?
Pourquoi les dents vieillissent avec le... Alors, la dent est constituée de deux couches. Une couche externe qui est l'émail, qui est transparente, et juste sous l'émail, il y a la dentine, qui est plus jaune.
C'est ça qui jaunit, en fait. Et non?
Cette couche qui est dessous, qui transparaît jaune à travers l'émail. Et il se passe inévitablement, à 30 ans, on va avoir les dents moins blanches qu'à 20. Pourquoi? Parce que cette couche d'émail, au fil des brossages, avec l'agression du brossage, va diminuer, et de proche en proche, donc on se rapproche de cette couche jaune, ce qui fait qu'à 50 ou 60 ans, on a encore des dents plus jaunes. Et donc c'est
irréversible ou on peut agir dessus?
On peut agir dessus. Juste pour finir sur le blanchiment, le contraste en fait entre la couleur des dents, la peau, les yeux et les cheveux, on va dire, imaginez quelqu'un qui a la peau brune, les cheveux châtains ou noirs, va avoir des dents qui vont paraître plus blanches. Quelqu'un, par exemple, qui a une peau claire, des yeux clairs, des cheveux blonds, va avoir des dents plus grises et plus ternes. Donc là aussi, il y a un effet d'optique entre la couleur de la peau, des cheveux et du reste.
Sur le blanchiment, parce que on dit blanchissement ou blanchiment d'ailleurs ?
Blanchiment.
Blanchiment.
On dit, pour être plus juste, éclaircissement, parce qu'on ne blanchit pas les dents comme ça, on les éclaircit. Mmh. On essaye en fait de récupérer notre blancheur des dents, celle qu'on avait à l'âge de 20 ans. Donc on parle d'éclaircissement des dents.
Quelles sont les techniques qui fonctionnent ? Alors, vous avez des techniques qu'on peut trouver en grande surface d'ailleurs ?
Non, surtout pas. Surtout pas. Alors, tout le monde n'est pas candidat au blanchiment. Il faut savoir une chose, c'est qu'un blanchiment peut être dangereux. Un blanchiment ne doit pas être fait avec ces produits qui sont vendus en grande surface, qui peuvent être utilisés d'une manière excessive et qui peuvent attaquer le nerf de la dent et abîmer les dents. Un blanchiment doit être fait si on a des dents saines et des gencives saines, et surtout, seul le dentiste peut le diagnostiquer, veiller à ce qu'il n'y ait pas de fêlure au niveau des dents. Ces fêlures ne sont pas forcément visibles par le patient, et on transillumine la dent et on arrive à voir ça. Alors ces fêlures, en fait, ce sont des voies de pénétration du produit de blanchiment qu'on utilise qui peuvent altérer profondément la dent. Donc, tout le monde n'est pas candidat au blanchiment. Pour avoir un blanchiment des dents, donc c'est un véritable traitement, il doit être fait après examen bucco-dentaire et une confirmation du fait qu'il n'y a pas de maladies des gencives et de caries ou de fêlures préexistantes.
Il y a les facettes aussi. Hein.
Les facettes, ça c'est encore autre chose. Les facettes, c'est lorsque soit ces tentatives de blanchiment sont vaines, soit les dents sont abîmées. Par exemple, des personnes qui ont eu des traitements antibiotiques importants pendant la première enfance peuvent avoir des taches ou des dents jaunes, très jaunes. Et là, malheureusement, le blanchiment n'agissant pas toujours, les facettes nous permettent de reconstruire. C'est un procédé absolument magique. C'est-à-dire qu'on va réduire un tout petit peu les dents, et un petit peu comme des faux ongles, on va venir plaquer une petite facette en porcelaine. Et ces facettes porcelaine, on les fabrique de plus en plus fines, ce qui permet d'attaquer vraiment un minimum la dent, et le résultat est exceptionnel. Seul inconvénient, d'abord, c'est une technique extrêmement difficile à mettre en place, aussi bien par le dentiste qu'à réaliser pour le prothésiste, et c'est malheureusement onéreux et pas remboursé par la sécurité sociale. Mais c'est le...
Il y a un tourisme aujourd'hui, notamment en Turquie, pour les facettes. Et dans certains pays de l'Est européen.
Il y a le même tourisme pour les implants capillaires.
Ouais. En Turquie aussi.
Mais alors, c'est plus grave que pour les facettes, il y a un tourisme médical pour les implants dentaires. Là, c'est beaucoup plus grave. On s'est aperçu que, ou pour les prothèses par exemple, ça c'est. Mais maintenant, à la limite, ça c'était la médecine low cost à l'étranger. Maintenant, malheureusement, on a chez nous avec les centres dentaires. Donc là, c'est pas la peine d'aller en Turquie si vous voulez vous faire abîmer pour aller dans les centres dentaires qui fleurissent au niveau des coins des rues. Là, vous serez servi. Ça sera pas cher et on va bien s'occuper de vos dents. Là, je parle
j'ai bien que c'était de l'humour.
Oui, mais moi aussi, c'est de l'humour.
Bien, on a bien compris.
Un petit peu.
Quelles sont les techniques dont les dentistes bénéficient aujourd'hui pour pouvoir prévenir dès le plus jeune âge le vieillissement ? Qu'est-ce que vous avez comme technique ?
Vieillissement des dents ou du visage ?
Oui, non, du visage. Parce
vieillissement
en fait,
du visage.
Ouais.
On va dire que le vieillissement commence à la naissance. Alors déjà, une chose qui est extrêmement facile à faire, c'est le brossage. Vous me disiez tout à l'heure, on a pu appeler mon bouquin et si une brosse à dents pouvait sauver la vie.
Ouais. Alors,
le simple fait d'avoir une hygiène bucco-dentaire irréprochable, et on peut l'avoir, vous savez qu'il y a des bons de visite gratuits chez le dentiste dès l'âge de 4 ans et cela jusqu'à 25 ans. Prévention des caries. Bon, ça, c'est important pour différentes raisons. Ça nous permet d'éviter d'avoir recours aux prothèses, aux implants ou autre chose. Mais surtout, avant tout, cette hygiène bucco-dentaire qui va prévenir la formation du tartre, qui est vraiment l'ennemi le plus important des dents et des gencives. Déjà, si on prévient ce déchaussement, c'est déjà énorme. Pourquoi prévenir ? Parce que la perte des dents, comme j'ai expliqué, la perte des dents, elle peut arriver d'une manière prématurée, soit par une absence de soins, soit par une absence d'hygiène. La perte des dents va provoquer un affaissement du visage. Mais attention, ça peut apparaître à l'âge de 30 ans. Donc il est très important de vraiment d'assurer une prévention bucco-dentaire. Et sincèrement, ces visites, je vais dire clairement, ces visites qui sont gratuites depuis l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 25 ans, si vous suivez ce parcours de soins qui est accessible à tous les Français, et c'est le seul pays au monde qui offre ces possibilités à ses citoyens, vraiment, vous n'avez déjà vous êtes vraiment, vous retardez le plus possible le vieillissement non seulement de vos dents, mais de votre visage. Donc, les dents et les mauvais traitements des dents ou l'absence de traitement des dents, c'est la principale source de vieillissement du visage.
Vous dites que le détartrage, c'est vraiment un acte incroyable.
C'est l'acte le plus incroyable possible, parce que non seulement il va prévenir l'apparition des caries, bien sûr, mais il va prévenir donc la perte de vos dents, vulgairement ce qu'on appelle le déchaussement. Il faut pas oublier que le tartre, c'est du calcaire infecté qui va attaquer vos gencives et le support des dents. On peut avoir une parodontite, un déchaussement des dents qui peut apparaître à l'âge de 30 ans. On le voit beaucoup aujourd'hui chez les jeunes, avec la malbouffe, l'absence d'hygiène, la consommation des sodas, de tous les produits acides et de tous ces sucres industriels.
Et la gencive ne repousse pas.
On a des traitements pour maintenir, pour contenir un peu cette maladie qui est la parodontite, donc le déchaussement. Mais très souvent, il n'y a pas de véritable traitement. Le meilleur dentiste, c'est vous. C'est vous qui allez assurer votre brossage. C'est vous qui allez assurer vos visites chez le dentiste. Le dentiste, lui, c'est un associé. Il est associé, on va dire, à 40%. C'est le patient qui détient la clé.
Grâce au président Macron, aujourd'hui, il y a le reste à charge zéro.
Oui. Ça, c'est un coup électoral qui a peut-être contribué à son élection. Il n'existe pas de pays au monde. Si, il est Cuba. Cuba, médecine dentaire gratuite, c'est là où il y a le plus grand nombre d'édentés au monde. Il n'existe pas de pays où les prothèses soient gratuites. Et cette annonce du reste à charge zéro, c'est l'idée la plus fumeuse et la plus grosse illusion qu'on ait vendue aux Français. Ce n'est pas possible, comme je vous l'ai dit, vous expliquez tout à l'heure. Le reste à charge zéro, imaginez que vous veniez me voir. Pour le reste à charge zéro, c'est-à-dire je vais, à la limite, vous payer pour vous soigner. Un dentiste, c'est un père de famille, c'est une mère de famille qui doit vivre normalement. Il n'est pas concevable. Ou alors, ce qui voudrait dire que, imaginez qu'il faille réduire les coûts, ça veut dire que les mal soignés passez moins de temps à vous soigner, envoyez ces prothèses fabriquées en Chine. Bref, il n'est pas possible de soigner correctement un patient en assurant le reste à charge zéro. C'est une illusion, c'est un leurre.
Alors, docteur Hamzalag, c'est vrai que les soins dentaires ont la réputation d'être chers, et notamment le remplacement des dents, mais vous le disiez, par exemple, un détartrage, ça coûte combien ?
Ça coûte 28 euros. Ça coûte 28 euros, et ça peut vous sauver vos dents, ça peut permettre de prévenir des caries, ça permet de prévenir le déchaussement, mais pas uniquement le détartrage. Tous les soins dentaires, et ça, c'est pas l'arrivée de notre président Macron qui a fait ça.
Je vous taquine.
Mais les soins dentaires préventifs et conservateurs sont intégralement remboursés et à la portée de tous, quel que soit notre niveau de revenu.
C'est Hollande qui avait commencé quand il a parlé des sans-dents, en fait.
Oui. No comment.
Bien, la suite est dans votre livre. D'ailleurs, on ne parle pas beaucoup de politique dans votre livre, on parle de dents. Et si votre dentiste pouvait vous sauver la vie, l'éditeur, c'est Hugo New Life. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur beurrefm.net et puis regarder la vidéo de cette émission sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous, Doc.
Avec plaisir.
Voilà. Et demain, c'est Nadia El Bouga qui sera avec nous.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.